arrivé à objectif est toujours d'être changé et modifié par la parole de Dieu. Nous voulons être un peu plus comme Jésus l'a fait ces deux jours. Mais le deuxième but, c'est que c'est qu'on travaille ensemble pour obtenir, pour atteindre des outils, pour étudier les psaumes un peu mieux qu'avant. D'accord? Qui sont nos deux buts. Et je veux commencer avec, par la prière, parce qu'on a toujours besoin du Saint-Esprit pour nous changer, pour nous guider. Prions ensemble. Notre Seigneur, c'est toujours un privilège de lire, d'étudier, de méditer la parole. Et ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'avancer dans nos vies chrétiennes, de gagner un peu plus d'amour pour toi, d'apprendre comment vivre un peu mieux pour toi. Et donc, nous demandons ton aide. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà. Bon, j'imagine que pour vous, c'est pareil pour que moi, j'ai des souvenirs. Hein. La dernière fois que j'étais là, c'était avec Robert. Et je pense qu'on n'est pas appelé d'ignorer tous nos souvenirs, la tristesse qui vient avec l'idée qu'il était avec nous avant et maintenant, il est avec le Seigneur. Il a eu ce qu'il voulait pendant toute sa vie. Mais je pense qu'on peut être encouragé parce que nous savons que nous faisons maintenant ce qu'il veut. Robert voulait toujours qu'on étudie la Bible et qu'on connaisse Jésus-Christ. Et donc, c'est avec ces pensées que je viens devant vous pour parler des psaumes. Voilà. Qui aime les psaumes? Qui aime lire les psaumes? Parce que les psaumes, ils partent de la consolation, n'est-ce pas? Quand on a besoin. Et ce n'est pas que nous. Pendant toute l'histoire de l'Église, les psaumes étaient très, très importants. Donc, j'ai trouvé, je dois bouger un peu, mais j'ai trouvé dans un livre ce fait. Selon le 8e concile de Toledo, dans le 7e siècle après Jésus-Christ, ils ont dit que personne ne peut remplir une poste ecclésiastique s'il n'avait pas déjà maîtrisé les psaumes. Pas que le psaume 1, 2, 23, 150 psaumes. Ça communique un peu l'importance des psaumes pour l'Église, au moins dans le 7e siècle après Jésus-Christ. Mais aussi, on a ce que Martin Luther a dit, a écrit. Il a dit, on peut justement appeler le sautier une Bible en miniature. Vous l'avez devant vous. Dans lequel tout ce qui est présenté plus longuement dans le reste de l'Écriture est recueilli dans un beau manuel d'une concision merveilleuse et attirante. C'est-à-dire, la Bible se trouve dans les psaumes. Toutes les doctrines de la Bible se trouvent dans les psaumes. Ou, pour citer un Français, je vais citer Jean Calvin. Il a dit, j'ai accoutumé de nommer ce livre une anatomie de toutes les parties de l'âme parce qu'il n'y a affection en l'âme laquelle ne soit ici représentée comme en un miroir. Même pour mieux dire, le Saint-Esprit a ici présenté au vif toutes les douleurs, tristesses, craintes, doutes, espérances, sollicitudes, perplexités, voire jusqu'aux émotions confuses desquelles les esprits des hommes ont accoutumé d'être agités. Hein, je pense que c'est à cause de ça qu'on aime bien les psaumes. Quand on est triste, on lit les psaumes. Quand on est... comme il a dit, on a des craintes, des doutes, on court vers les psaumes. Il continue, le reste de l'écriture contient les enseignements que Dieu a enjoints à ses serviteurs de nous annoncer. Mais ici, les prophètes, d'autant que parlant à Dieu, ils découvrent toutes les affections intérieures, appellent ou plutôt tirent à chacun de nous à examiner soi-même afin que rien de tant d'infirmité auquel nous sommes sujets et de tant de vices desquels nous sommes pleins de demeures cachées. C'est certes un excellent et singulier profit qu'ont toute cachette découverte le cœur et produit en lumière bien purgée de cette méchante infection d'hypocrisie. C'est-à-dire, quand on lit comment David, une autre personne qui a écrit un psaume, il parle de ses émotions très très profondes envers Dieu. Et si on ne partage pas les mêmes émotions, ça révèle un peu d'hypocrisie. Hein. Et ça, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Parce que quand le Seigneur illumine, lui révèle les choses dans nos cœurs, il nous donne l'occasion de demander pardon, de se repentir, et de changer, d'être un peu plus comme Jésus, le Seigneur. Voilà, ça c'est un peu l'importance, et j'ai mis une autre citation ici. Le livre des psaumes est sans doute le livre de l'Ancien Testament le plus lu et le plus spontanément apprécié des lecteurs chrétiens. Il n'est pas rare que de nouveaux croyants se voient offrir un petit Nouveau Testament auquel sont ajoutés croix. Les psaumes, hein? Un peu comme ma petite Bible ici. Hein? On aime bien avoir le Nouveau Testament avec les psaumes parce que ça donne beaucoup d'encouragement. Voilà. Les psaumes sont importants pour nous, mais on a une question. Est-ce que les psaumes sont des poésies, hein, beaucoup de poèmes, qui sont mis ensemble, sans ordre et sans unité? Un peu comme un livre comme ça, hein, Anthologie de la poésie française, par Georges Pompidou. Hein. Et cet homme, c'est un président, hein, c'est impressionnant. Est-ce qu'il a arrangé ou organisé ce livre selon un thème, ou est-ce qu'il a choisi les poésies qu'il aimait le mieux? Où il pensait qu'ils étaient les traits les plus beaux, les plus intelligents, quoi. Moi, je ne pense pas qu'on peut lire et étudier ce livre et trouver un seul thème. Mais quand on lit les psaumes, est-ce qu'on peut trouver un seul thème, un grand thème, qui est le but du livre? Ou est-ce qu'on doit parler des psaumes? Bon, je vais poser un peu différemment. Est-ce qu'on peut parler d'un livre des psaumes? Où est-ce qu'on doit parler des psaumes? Selon vous. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation avec tous les psaumes, entre tous les psaumes, ou est-ce qu'on a seulement 150 psaumes qui sont mis ensemble, et donc on n'a pas besoin de lire le psaume 93 à la lumière du psaume 1? Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, je veux qu'on regarde ce que la Bible présente afin d'établir que, selon moi, et j'espère après, selon vous, il y a une unité des psaumes. C'est-à-dire, je pense que c'est un seul livre avec 150 psaumes. Voilà. Mais tous les psaumes sont ensemble pour une raison. L'unité des psaumes, ça c'est le grand chiffre 2. Les psaumes ont été écrits par au moins 8 auteurs différents. D'accord? Si vous pouvez voir et lire l'écran, j'ai mis toutes les réponses, des trous, j'ai souligné toutes les réponses. Les psaumes ont été écrits par au moins 8 auteurs différents. Quels sont les auteurs?
David.
David, voilà. David.
Asaph.
Solomon.
Fils de Corée.
Fils de Corée. Il y a un auteur qui est vraiment, vraiment, vraiment vieux. Du temps de l'Exode.
Moïse.
Bon, ils sont tous vieux maintenant. D'accord. On va commencer avec David, parce qu'il est le plus connu. Et il a écrit 76 psaumes, au moins, qui sont attribués à lui. D'accord. Après, on a les fils de Corée, ils ont 10 psaumes. D'accord. Et bon, si vous êtes intéressé, je peux partager le PowerPoint avec vous après. Asaph, 12 psaumes. Salomon, 2 psaumes. On a David, bien sûr. Hop, je peux reculer. David, après les fils de Corée. Et après, Asaph. D'accord. Et Salomon, il a écrit 2 psaumes. Un homme qui s'appelle Eman. 2 psaumes, pas un seul psaume. Et aussi Ethan, il a écrit un psaume. Moïse, un psaume. Et la personne qui a écrit après David, nombreux, juste après David, c'est un homme qui s'appelle Anonyme, avec 5 ans. On ne sait pas. Cinq enfants. On ne sait pas exactement qui. C'est pas marqué dans le Bible en hébreu, c'est pas marqué. Donc je vais répéter. David avec 66, les fils de Corée avec 10. 76, excusez-moi. Esaf avec 12. Salomon avec 2. Aimon avec 1. Ethan 1. Moïse 1. Et on ne sait pas pour 5 ans.
Mais ça peut être plusieurs personnes.
Ça peut être plusieurs. Ça peut être David, Aimon, Moïse, Jacob. Franchement, on ne sait pas. Ça peut être 50 personnes différentes. Et c'est à cause de ça que j'ai mis au moins 8 auteurs. Au moins. Hein? Je ne sais pas, non, c'est au moins 8 ici. 50, oui, 50. Voilà, anonyme, 50. Voilà. Et normalement, on dit s'il y a au moins 8 auteurs qui ont écrit les psaumes, est-ce qu'on peut dire que les psaumes ont une unité? C'est-à-dire qu'ils ont un message. On continue avec la lettre B, ça c'était la lettre A. Les psaumes ont été écrits par au moins 8 auteurs différents. Et maintenant, on va dire que les psaumes ont été rédigés sur combien de temps? C'est-à-dire, si on prend le plus âgé, bon, le plus ancien, et le plus récent, il y a combien d'ans entre les deux? J'ai entendu des choses, mais que des bruits. 500? 450? C'est 1000 ans. Si on prend, par exemple, Moïse, qui a écrit le psaume 90, envers 1400 ans avant Jésus-Christ, d'accord? Et si on prend la personne qui a écrit la majorité, le 76 psaumes, on parle à David, et David, il a vécu vers environ 1000 avant Jésus-Christ. Et si vous regardez avec moi le psaume 137, le psaume 137 dans vos Bibles, Psaumes 137. Quelqu'un peut lire pour nous pour le premier verset?
Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion.
D'accord. Et pour vous, ça évoque quelle période de l'histoire du pays d'Israël? Ouais. C'était l'exil. Et en fait, on a des psaumes qui viennent après l'exil. Après, ils sont retournés au pays. Et ça nous amène vers l'année 400 avant Jésus. D'accord? On a commencé avec Moïse. Et maintenant, on arrive après l'exil. Et ça fait presque 1000 ans. D'accord? On a au moins 8 auteurs qui ont écrit leur psaume à travers 1000 ans. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un seul thème? Il y a une organisation pour les psaumes? Ou est-ce que ça rend les choses trop difficiles? Hein? Non, c'est par hasard. Ils sont dans la Bible par hasard. Ça, c'est ma question. Oui. Bon, ces deux faits impliquent que les livres de psaumes ont été organisés. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont organisés. Hein? Mais quelqu'un les a mis ensemble. Mais les personnes qui ont mis ensemble, est-ce qu'ils ont établi une organisation qui nous aide à comprendre le message du livre? Et moi, je pense oui. Troisièmement, l'organisation des psaumes. D'accord? Les psaumes sont regroupés en combien de livres? 5. On sait que c'est 5 livres parce que je l'ai mis sur l'écran. Mais dans vos Bibles, d'accord? Si vous regardez dans vos Bibles, cherchez par exemple le psaume 41 et le verset 14. Est-ce que vous avez écrit entre le psaume 41 et le psaume 42, est-ce qu'il y a quelque chose écrit? Et si oui, c'est quoi?
Deuxième
livre, d'accord? Maintenant, regardez au verset 14 du psaume 41, le le verset 14. Et quelqu'un peut lire ce verset pour nous? C'est court. Le verset 14, psaume 41.
Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, éternité. Amen.
D'accord. Et j'ai Amen, Amen. La répétition d'Amen. D'accord. Maintenant, tournez au psaume 72. Et est-ce que vous avez quelque chose écrit entre le psaume 72 et 73? Oui, c'est quoi?
Troisième
livre. Et peut-être on se demande, comment on sait que c'est le troisième livre? Est-ce qu'il y a des indications qui nous disent, oui, il y a un autre livre? Qui peut lire les versets 18 et 19? Du psaume 72.
Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen.
Bon, est-ce que vous avez déjà vu les mots de ce verset dans un autre psaume? On vient de lire « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. » On termine le psaume 72. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit à jamais son nom glorieux. Amen, amen. » Et maintenant, le psaume 89, c'est pas loin, et j'imagine que c'est marqué dans vos Bibles, livre 4e, et le verset 53 dit « Béni soit à jamais l'Éternel, Amen, Amen. » Et si on regarde, il faut... Psaume 106. On trouve au verset 48 quel mot? Ouais. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Est-ce qu'on a déjà vu ces mots? Oui. Et que tout le peuple dise Amen. Loué l'Éternel. Bon, avec la répétition, de ces mots, il me semble qu'on peut dire oui, il y a une organisation. Et les livres, les cinq livres, sont indiqués par les mots Béni soit l'Éternel. Amen et Amen. Et moi, je pense que cette conclusion est renforcée par le fait qu'on ne trouve pas les mots Amen et Amen dans les psaumes, sauf sans ces versets. Ce que je veux dire, c'est que c'est fait exprès. Il veut qu'on divise ce livre en cinq parties. Et il indique la fin de chaque livre par les mots Béni soit l'Éternel, Amen et Amen. Voilà, on est ensemble. C'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Mais il faut observer. Parce que combien de fois j'ai lu le livre des psaumes sans avoir noté la répétition entre les psaumes? Et non, parce que ça arrive, j'ignore de la répétition entre les psaumes, parce que je lis ensemble ce jour-là, je réfléchis, j'oublie, et la Le jour après, je lis un autre psaume, sans avoir fait le lien entre les psaumes. Mais est-ce que les personnes qui ont écrit et qui ont organisé sous l'inspiration du Saint-Esprit, est-ce que ces personnes voulaient qu'on lise chaque psaume sans contexte des psaumes? Je ne pense pas. Et je vais continuer avec l'organisation des psaumes, la lettre B. Le livre des psaumes a une conclusion. Ça, c'est la lettre B. Le livre des psaumes a une conclusion. Regardons ensemble les derniers psaumes du livre des psaumes. On commence avec le psaume 146. Juste pour faire les choses plus rapidement, notez le psaume 146 commence avec quel impératif? Louez l'Éternel. Et il se termine avec quel mot? C'est le même mot. Louez l'Éternel. Le psaume 147, on commence avec louez l'Éternel. Et on se termine avec quoi? Louer l'Éternel. Le psaume 148. Louer l'Éternel, verset 1. Louer l'Éternel, le verset 14. 149. Pensez-vous qu'on va trouver louer l'Éternel? Oui, louer l'Éternel, le verset 1. Louer l'Éternel, le verset 9. Et on trouve la même chose au psaume 150. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Et on doit se poser la question. Est-ce que c'est par hasard qu'on trouve cinq psaumes, l'un après l'autre, qui commencent avec le même impératif, louez l'Éternel, qui se terminent avec le même impératif, louer l'Éternel? Est-ce que ça, c'est comme ça, par hasard? Après avoir compilé les psaumes, ils ont dit, oh, avez-vous noté? Les cinq derniers psaumes commencent et se terminent avec les mêmes mots. Incroyable, j'ai pas noté ça. Non, pour moi, ça c'est vraiment, vraiment peu probable. Je pense qu'ils ont organisé. On a cinq livres des psaumes, et vers la fin, on a la conclusion. Et la conclusion, c'est quoi? Louez l'Éternel. Et c'est pour tous. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les Juifs. Et pour moi, ça c'est quelque chose de très très utile. Hein? Parce que si on prend un livre, et on lit l'argumentation de quelqu'un, et on arrive à la conclusion, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il résume, n'est-ce pas? Normalement, s'il est un bon auteur, il résume. Il vous donne les arguments en général. Il dit, j'ai dit ça, ça, ça et ça, et voilà ma conclusion. Et moi, quand je n'ai pas trop de temps, je lis l'introduction, quelques pages, et la conclusion, et je sais, d'accord, je sais ce qu'il veut dire. S'il a bien fait son travail. Si on prend la conclusion des psaumes, la conclusion des psaumes, c'est quoi? Louez l'Éternel. On sait ce qui est au moins une partie du thème des psaumes. C'est qu'on doit louer l'Éternel. Vous voyez, est-ce qu'on est tous ensemble? Ouais. Je sais qu'on est fatigué, mais j'avance rapidement, j'espère. Voilà, ça c'est la conclusion des psaumes. Mais s'il y a une conclusion, on attend quoi? Une introduction, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une introduction au livre des psaumes? Je pense oui, bien sûr. Donc, on va commencer avec le numéro 1, la lettre C, on parle maintenant, le livre des psaumes a une introduction. Le trou, c'est introduction. Mais c'est quoi l'introduction? Quelle est l'introduction? Regardez avec moi le psaume 1, s'il vous plaît. Et bon, on doit avancer assez rapidement, mais est-ce que vous notez-vous un titre pour le psaume 1? Ça dépend. On va faire différemment. Regardez au psaume 3. Au psaume 3, quels sont les premiers mots, le verset 1? Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Le psaume 4. Le premier verset. Au chef des chants, avec instrument à cordes, psaume de David. 5. Au chef des chants, avec les flûtes, psaume de David. Le psaume 6. Au chef des chants, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Le verset 7. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamin. Psaume 8. Au chef des chantres sur la Gittite. Psaume de David. 9. Au chef des chantres sur Meurs pour le Fils. Psaume de David. Le verset 10, on ne trouve pas un titre. Mais souvent, et dans l'histoire, le psaume 10 va avec le psaume 9, comme il est un seul psaume. Et donc, on peut, si on prend le temps pour lire les deux, on voit qu'ils sont presque le même sujet. On revient avec le psaume 11, au chef des chantres de David, au chef des chantres, le verset 12. Et bon, je peux aller jusqu'au psaume 41, mais chacun, sauf les psaumes 10 et les psaumes 33, je pense, on a des titres. Et le psaume 10 et le psaume 9 vont ensemble. Et le psaume 32 et le psaume 33 vont ensemble. Parce que si vous regardez le psaume 32, le psaume termine avec le verset 11. Juste, réjouez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie à vous tous qui êtes droits de cœur. Juste, verset 1 du psaume 33. Réjouis-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. On a la répétition, n'est-ce pas? Et bon, on peut voir pourquoi ces deux vont ensemble. Et il n'y a pas de titre. Ok. Entre les psaumes 3 et les psaumes 41, tous les psaumes, sauf 2, ont des titres. Psaume de David, etc. Regardons maintenant les psaumes 1 et 2. Les psaumes 1 et 2, est-ce que ces deux psaumes commencent avec des titres, comme les autres? Non. Et ça nous indique qu'il y a une différence entre les psaumes 3 jusqu'au psaume 41 et les psaumes 1 et 2. Mais peut-on conclure que les psaumes 1 et 2 font l'introduction? D'accord. Ça, c'est une autre question. Ah, des questions après questions. C'est embêtant si vous voulez dormir. Mais bon, il y a un manque de titres pour les deux premiers psaumes. Deux. Okay, ça, c'est le 1 sur la lettre C. La lettre C, le livre des psaumes a une introduction. Comment on le sait? On le sait parce qu'il y a un manque d'un titre pour les deux premiers psaumes. Okay, vous voyez ce que je voulais faire? Au moins, c'est prouver, hein? Prouver que les psaumes 1 et 2 font l'introduction du livre des psaumes. Je sais, le livre des psaumes a une introduction 1, le manque d'un titre pour les deux premiers psaumes. 2, la répétition des mots clés dans les deux premiers psaumes. J'imagine que tout le monde ici peut répéter, réciter le psaume 1, n'est-ce pas? Heureux l'un qui ne marche pas. C'est joli, n'est-ce pas? Et le psaume 2, peut-être on sait un peu moins bien comment, c'est un peu plus long. Mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est l'influencé parmi le peuple. Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Voilà. Est-ce qu'il y a des liens entre ces deux psaumes? Est-ce qu'ils existent des liens, des répétitions des mots entre ces deux psaumes? La réponse est oui. Quel est le premier mot du psaume 1? C'est quoi? Heureux. Quel est presque le dernier mot du psaume 2? Heureux. Et en fait, je pense en hébreu, c'est le dernier mot. Et normalement, ça c'est appelé l'inclusion. Et ça sert un peu comme les cercles livres. Un ici, et tout qui est entre ces deux choses vont ensemble. Jésus a fait la même chose quand il a prêché son sermon sur la montagne. Il a dit quoi? Heureux l'un, en fait. Mais en Matthieu 5, il commence avec heureux, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et on trouve à la fin. Le verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce qu'on doit conclure qu'au verset, peut-être au verset 7, les miséricordieux, on sait bien parce qu'ils obtiendront miséricorde, mais Jésus n'a pas dit que le royaume des cieux est à eux. Est-ce qu'ils vont rater le royaume des cieux? Non. Il a commencé avec cette idée, le royaume des cieux. Il a terminé avec l'idée, le royaume des cieux. Et toutes les personnes entre ces deux versets 3 et le verset 10, ils vont hériter le royaume de Dieu. Mais il veut mettre l'accent ailleurs. Ça, c'est l'inclusion. Il commence avec une idée, il termine avec une idée. Et on est. Bon, il attend. Qu'on dire, ah, heureux, ils vont ensemble. Voilà. Ça, c'est l'un des mots qui est répété. Mais on a aussi au verset 1, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Au psaume 2, on a le verset 10 et que vous ne périssiez dans votre quoi? Votre voix. On a cette idée de la vie. Il utilise une image pour la vie. Et ça, c'est la voix. On a des voix à prendre. Aussi, le verset 2. Qui la médite jour et nuit. Et qui peut trouver le mot, le verbe méditer au psaume 2? C'est là. Mais c'est où? Au psaume 2. C'est un peu un piège. Parce que on ne trouve pas le verbe foncer, méditer. Mais on trouve le même mot en hébreu dans les deux. Et c'est au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vains pensées parmi les peuples, pensées? Pourquoi ces vains méditations? Pourquoi ils méditent des vaines choses? Et entre les deux psaumes, on a ceux qui méditent des bonnes choses et ceux qui méditent des mauvaises choses. La rébellion et la soumission. Mais ça, c'est une répétition. Et aussi, on a cette idée, le verset 6 du psaume 1. Il termine avec cette idée très, très lourde. La voix des pécheurs mène à la ruine. Et au psaume 2, le verset 12, baisez le fils de peur qui est de Syrie, et que vous ne périssiez dans votre voie. Périssiez, c'est le même mot. C'est la répétition des mots hébreux qui indique qu'il y a des liens entre ces deux psaumes. En fait, ils traitent les mêmes sujets. Ils n'ont pas de titre. Et ils sont distingués un peu parce que après le psaume 2, commençant avec le psaume 3, tous les psaumes ont des titres du premier livre. Ça nous indique qu'il y a une distinction entre les psaumes 1 et 2 et le psaume 3 et suivant. Et ensuite, on note qu'il y a de la répétition entre ces deux psaumes. Et ça nous indique que les deux psaumes doivent être pris ensemble. D'accord? Ils sont une introduction au livre des psaumes. Et voilà. Est-ce que vous êtes convaincus? Parce que je jette la fondation. Tout ce qu'on va faire demain dépend de ce qu'on fait maintenant. Ok? On est ensemble. Vous pouvez poser des questions après si vous voulez. Parce que. Voilà. Mais maintenant, je veux changer un peu notre direction. Et nous allons parler de l'interprétation des mots. Et il y a des questions qu'il faut poser quand on étudie les psaumes. On commence avec cette question. Qui parle dans le psaume? C'est simple, n'est-ce pas? Mais on doit connaître qui parle. Par exemple, je viens de terminer le livre Le Comte de Monte Cristo. Et il y a beaucoup de personnages dans ce livre. Et si je ne suis pas sûr qui parle, je serai perdu. Je dois connaître la personne qui parle. Et c'est la même chose pour les psaumes. Par exemple, le psaume 2. Est-ce qu'il y a une seule personne qui parle dans le psaume 2? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, centaine. On doit le connaître. Par exemple, qui dit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chair. Les rois de la terre. Oui. Mais si on pense, ah, c'est le psalmiste, ou c'est l'Éternel. L'Éternel dit, brisons leurs liens et les liés. Je savais, jamais savé ça. Non, on doit connaître qui parle. Parce que ça nous donne de signification. Bon. D'accord. Qui parle? Ça, c'est la lettre A. Qui parle? Deuxième question. Qui sont adressés dans le psaume? C'est-à-dire, ils parlent à qui? Ça, c'est simple, n'est-ce pas? Vous le faites sans savoir. Mais parfois, on doit savoir qu'on le fait. Qu'on le fait. La lettre C. Le psaume contient-il la répétition des mots, des idées, des structures grammaticales? Et vous le connaissez, je sais, mais c'est bien d'avoir des rappels. La poésie dans la Bible hébraïque n'est pas comme la poésie française, américaine, qui utilise beaucoup les rimes. Pour les Hébreux, c'était plutôt la structure, la répétition des mots. Parfois, c'est des structures grammaticales. Parfois, on a la répétition des c'est les contrastes, c'est l'opposite. Ça. Mais on doit faire attention. D'accord? Il faut le lire avec les yeux ouverts. Et ça, c'est difficile le matin, n'est-ce pas? On se lève, et, je veux lire la Bible. Et 20 minutes après, soit j'ai lu un seul verset 25 fois, parce que c'était très très difficile, ou j'ai lu un chapitre, mais franchement, je ne sais pas ce qui était là-dedans. Hein. Je l'ai lu, mais après, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Et ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir un stylo à la main. Pour faire des cercles, entourer les choses, barrer les choses, souligner les choses, faire les liens entre les idées, les mots, et tout cela. ça, c'est la question 4. Et le 3, et maintenant le D. Le psaume contient-il des images? C'est quoi une image dans ce sens? Un peu comme une statue?
C'est quoi?
Statue? Non, c'est pas ça. c'est quelque chose qui évoque. Normalement, on utilise quelque chose concret qui évoque d'autres idées. Par exemple, un homme qui est heureux, une femme qui est heureuse, est comme quoi? Un arbre? Une personne heureuse doit avoir des racines, des feuilles. Non, il veut évoquer d'autres choses, des choses qu'on ne peut pas toucher, des choses intangibles qui sont communiquées par cette image d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on va parler plus de ça demain, mais il y a des images utilisées partout dans les psaumes. Et on peut les lire assez rapidement. Dieu pour nous est un rocher. Ça veut dire quoi? C'est une image. Il faut creuser pour trouver c'est quoi la signification d'être un rocher, un bouclier, Voilà. Est-ce qu'il y a des images? Et s'il y a des images, il faut du temps pour réfléchir. Quand je pense à l'arbre, ça me dit quoi? Mais ça exige du temps, hein? Ça exige du temps. Voilà. Quelqu'un à l'église m'a dit, tu dis voilà trop. Maintenant, j'essaie de... J'ai honte maintenant. Mais c'est mieux que dire comme les Américains. Et maintenant, la catégorisation des psaumes. Ça, c'est pas bon. Je vous donne parce que c'est un peu utile, mais c'est pas très, très, très nécessaire. Mais on a des psaumes qui sont des hymnes. On a des psaumes qui sont des psaumes de reconnaissance. Dis merci. Le psaume de pèlerinage, ceux qui chantaient en temps là, pendant qu'ils allaient au temple, le Seigneur. Psaume de sagesse, un peu comme les proverbes qui donnent la sagesse. Psaume de lamentation. Et je trouve que ça, c'est un type de cantique qu'on a. On a besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas trop des cantiques de lamentation pour exprimer notre tristesse sur nos péchés, sur la perte, sur la souffrance. On a besoin de s'exprimer selon moi. Le psaume de couronnement qui parle plutôt du fait que Dieu règne sur tout. On pense à un couronne, on pense à un roi. Et un psaume, les psaumes royal, ça c'est le 6. Et ça c'est surtout les psaumes qui parlent de David et ses descendants, mais qui parlent plus profondément du Christ. Ils sont très souvent utilisés dans le Nouveau Testament pour parler du fait que Jésus est le roi promis et les psaumes d'imprécation. On aime beaucoup les psaumes d'imprécation. Personne me fait mal. Ok. Maintenant, je vais appliquer un peu. Ça, c'était un peu comme un cours. Hein? Pas vraiment une prédication. Mais maintenant, on a notre base. Mais si les psaumes ont une organisation, et si les psaumes sont divisés, oui, en 5 livres, mais c'est un seul livre. Un peu comme le Seigneur... c'est quoi? Le Seigneur d'Agneau? Des Agneaux. Ouais. C'était 3 livres, mais c'était une seule histoire. Et si les psaumes... D'accord, si les psaumes sont divisés en 5 parties, mais c'est un seul livre. Ça veut dire qu'il y a un seul message. Et qu'on ne peut pas lire le psaume 23 hors du contexte du livre des psaumes. Et du premier livre du livre des psaumes. Mais ce qui est vraiment intéressant, hein, si on recule un peu pour regarder le livre des psaumes, on voit qu'on commence avec souvent David sous la persécution, n'est-ce pas? Le psaume 3, David sous la persécution. Le psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Au début, on trouve David sous la souffrance, dans la souffrance, sous la pression. Mais il y a un mouvement dans les livres des psaumes, parce qu'on termine avec quoi? Comment? le maître. On termine la conclusion dit quoi? Louez l'Éternel. Mais pas seulement David, pas seulement les Juifs. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec la tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. On parle plus de David et des nations. Si vous respirez, vous êtes appelés à louer l'Éternel, même si vous n'êtes pas juif, comme moi. Et pour moi, ça, ces pensées, elles ont ouvert pour moi les psaumes. Parce que maintenant, quand je lis le psaume, je regarde un livre qui commence avec la souffrance et bien localisé avec David et son peuple, le peuple d'Israël. Mais à la fin, on voit le mouvement de l'histoire. Dieu travaille, une œuvre. Et un jour, on verra cette conclusion. Tout ce qui respire, Dieu est l'Éternel. Et ça, c'est notre prière, ça, c'est pourquoi nous existons et c'est pourquoi nous travaillons. Afin que Jésus-Christ, que Dieu, en trois personnes, soit loué. Et il est digne de ça. Voilà. Nous allons prier ensemble et après, Lana va venir de son nom prochain. Mon Père Céleste, tu es digne de notre louange. Pour tes hauts faits, pour ta grandeur, pour ta majesté. Et nous te remercions pour les psaumes, pour l'organisation des psaumes, pour l'occasion de les étudier. Et nous voulons, selon ta grâce et dans ta miséricorde, avancer avec notre compréhension des psaumes. Nous ne voulons pas être des experts des psaumes, mais nous voulons te connaître à travers les psaumes. Et comment répondre aux souffrances, mais aussi comment vivre avec cette idée dans nos têtes. Tu seras loué. Et que cette pensée nous anime pour ta gloire.
Question.
Imprécation. Imprécation, ce sont des psaumes où David prie que Dieu juge les malfaiteurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être regarder, considérer tout ce qui se passe en France avec les personnes qui causent beaucoup de blessures, beaucoup de peur. Et est-ce qu'on a le droit de prier que Dieu les juge, que Dieu les tue? Je ne sais pas. On doit avoir la sagesse du Seigneur, mais c'est cette idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a des trucs qu'on a ratés, hein? J'ai essayé d'aller assez lentement, mais est-ce que vous avez su les trucs?
Les plaintes. Il est dans la catégorie de 2.
lamentation pour le mélange ou...
Oui, j'imagine. Oui, et je veux dire qu'il y a des... Ils sont catégorisés différemment par les personnes différentes. Et parfois, on a des psaumes qui, on peut dire, ah, ça c'est un hymne, mais aussi un psaume de sagesse. C'est pas clair et net. Et c'est pourquoi j'ai pas mis trop d'accent sur cette partie-là, parce que, selon moi, ça c'est l'homme qui impose des catégories. Parce que ça nous aide un peu. On a des idées comme ça, des idées comme ça, des idées comme ça. Mais je ne l'ai pas écrit. Par exemple, psaume 1, psaume de sagesse, psaume de David. Bon, c'est lui qui dit ça, c'est le psaume de sagesse. Psaume de plein de lamentations.
Juste question. Les cinq livres, c'est déjà hébraïque?
Oui. Oui, ça se trouve dans la Bible.
Non, mais les cinq que nous transposons dans nos Bibles maintenant, c'est à partir de la division hébraïque.
Oui, oui, ça c'est vrai. Et en fait, les Juifs, ils ont fait la comparaison entre les cinq livres des psaumes et les cinq livres de qui?
Moïse.
Et ça nous démontre, franchement, la profondeur de leur appréciation pour les cinq. Parce que Moïse, il était Moïse. Hein. Et pour dire qu'il y a cinq livres des psaumes qui correspondent avec les cinq livres de Moïse, ça met l'accent sur l'importance des psaumes. Est-ce que tu as.
Je ne sais pas, peut-être tu vas le dire après, je ne sais pas. Okay. Mais est-ce que ce sont les Juifs qui ont organisé les psaumes comme ça, qui ont décidé que Moïse, ce serait après David, et
oui,
le 1
pense,
et le 2, ce serait avant.
Oui, je pense que c'était
les Juifs. Mais est-ce qu'on sait à peu près quand ils ont décidé que ça serait organisé comme ça?
Bon, bien sûr, ils ont terminé après l'exil. Parce qu'on a des psaumes qui viennent après l'exil. Non, personne ne sait exactement quand ils ont terminé, mais ce qu'on croit, et on a, bon, Jésus l'a accepté comme la parole de Dieu. Et ce que nous croyons, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'acte d'écrire, mais aussi qui a organisé, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait l'organisation exprès à travers ces personnes.
Donc, voilà. Donc le Saint-Esprit a inspiré ceux qui ont écrit. Et ceux qui ont classé, parce que finalement,
classé. Oui, dans sa providence, si on dit inspiré, si on dit c'était dans sa providence, ce qu'on sait, que c'est Dieu qui contrôle tout. Il n'y a aucune chose qui se passe hors du contrôle de Dieu. Et si on regarde le livre de Psaume, on dit... Regarde, cette organisation, ça ne peut pas être par hasard, au hasard. On ne peut pas dire, bon, merci Dieu, hein, même s'il ne voulait pas, les hommes, ils ont fait. Non, je pense qu'on peut dire, Dieu, il a fait sa volonté à travers les hommes qui ont organisé la Bible.
Juste une question. C'est toujours chanté dans les synagogues, les psaumes. Je sais qu'il y a les psaumes pour Pâques, les psaumes à l'aile, ils le chantent pendant la cérémonie. Mais est-ce que les autres psaumes, on chante à notre époque maintenant par les Juifs?
Je pense oui. Bon, ouais, je n'étais jamais là. Mais j'ai regardé il y a un mois, j'ai regardé un film des hommes juifs. J'ai chanté le psaume, je pense que c'est le psaume 121. C'est très très beau. On est deux, donc je ne ferai rien. Mais c'est bon. Oui, je pense. Et parmi les églises évangéliques, il y a pas mal d'églises qui essayent de chanter les psaumes.
Les juifs messianiques, ils chantent encore.
Oui, les juifs messianiques. Et je pense que dans l'église où était Israël et du Hanan. Je pense qu'ils chantaient les psaumes. Oui. Pas seulement les chants, les psaumes, mais...
Oui, avant, tu vois, je n'ai
que les psaumes.
L'église en Écosse.
L'église en Écosse, oui.
Oui.
Et c'est bon, c'est bien si on peut chanter les psaumes. Hein.
Mm-hmm. C'est le bon mot.
Ouais. On ne peut pas se tromper avec les mots. Hein.
Oui, aussi la retenir comme ça.
Oui, oui, ça aide beaucoup. Ouais. Je pense que nos enfants sont en train de mémoriser le psaume 1 en chantant. N'est-ce pas, il y a un chant qui continue.
Que
verset 1. Que verset 1.
Voilà.
Mais oui, c'est un peu changé. Mais bon, quand on traduit la poésie, on va changer. Voilà. Merci. Vous avez bien fait, étant très très fatigué. Mais je vous rends de pouvoir me reposer bien ce soir et travailler demain.
Merci beaucoup, Michael. Vous avez la bon goût, hein, ce qui nous attend. Donc, merci, Seigneur. Et pour demain, j'ai encore du mal à mémoriser. Ça sera aujourd'hui, c'était les pendules. Demain,
c'est le réveil, je crois.
Le réveil. Donc, les numéros 2, ceux qui ont choisi le chiffre 2, qui est le chiffre 2, ça va être le réveil. Donc, qui va préparer le petit déjeuner pour à 8h30. Mettre les bols, le chocolat.
On mange à
8h30, mais ceux qui préparent, c'est-à-dire venir un quart d'heure avant. Pas suffisamment. Non ? Ah, on nous dit que non. 8h alors. Donc les réveils, demain à 8h, parce qu'il faut chauffer le lait, il faut mettre les beurres, les. Voilà. À 8h, c'est bien.
Juste après. C'est fatigant pour. Après, vous pouvez parler. Oui, désolé. Juste pour demain, donc le réveil, c'est le petit déjeuner. Après, David, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que demain, on aura une journée libre l'après-midi. Hein, David avait suggéré de partir en canoë-kayak. Bon, peut-être je te laisse suivre la parole pour que tu puisses dire en détail. Voilà, tout ce qu'il faut, ce qui a envie de faire, cela.
J'avais regardé sur l'office de tourisme de Saint-Antonin. On a cette chance finalement d'être en Tarn-et-Garonne, mais en plein sur le site des Gorges de l'Aveyron. Hein, vous avez vu en arrivant en voiture, vous avez le choix entre deux routes, les 18 km pour arriver à Saint-Antonin ou les 26 en passant par les Gorges. Donc, nous, systématiquement, le GPS nous amène par les gorges et on découvre ce site magnifique qu'on voit généralement sur les cartes postales et on a envie d'y descendre pour voir ce qui s'y passe en bas. Donc, je me suis dit, cette année, j'en ai parlé à Lala, j'ai dit pourquoi pas, puisqu'on a un après-midi de libre, pourquoi ne pas faire une escapade sur l'Aveyron. J'ai regardé sur le site, sur l'office de tourisme de Saint-Antonin. Donc, il y a... Le départ est de Saint-Antonin, donc de toute façon, quoi qu'il en soit. Dans le village, il y a 7 ou 8 clubs qui font ça, qui louent des canoës ou des kayaks. Il n'y a pas de rafting en ce moment puisque les eaux sont trop calmes. Le rafting se fait plutôt au mois de février. Donc là, on est tranquille, on fait une descente tranquille en canoë ou en kayak. Kayak, si vous êtes tout seul, en canoë à deux, voire un troisième à un enfant au milieu. Donc les possibilités qui se présentent à nous, pour nous, on a la possibilité de louer ces bateaux, ces embarcations pour quelques heures ou une demi-journée, enfin peu importe, le temps qu'on en a besoin. La descente, c'est une descente soit de 10 km, soit de 17 km. Voilà. Et le prix maximum. En fonction des différents clubs. Mais le prix maximum, c'est 22 € par personne. Et j'ai re-regardé encore ce matin. On descend à 14 pour un certain club, on descend à 14. Voilà.
Bonjour.
14 euros par personne pour les 10 km. Les kilomètres, c'est déjà bien, je pense, pour, surtout qu'on n'a pas trop l'habitude d'en faire habituellement. Donc, se faire déjà 10 km de pagaie, je pense que ça sera déjà pas mal. Hein. Voilà. C'est ça, sans être négocié pour l'instant. Alors, pour l'instant, je n'ai appelé personne, puisque je n'ai appelé aucun club pour l'instant, puisque ça ne sert à rien d'appeler les gens pour leur dire on va peut-être être 3, peut-être être 15. Il fallait déjà s'il y avait des personnes qui étaient intéressées par le faire. Si on part sur une moyenne de 15-16 euros, combien il y a de personnes qui sont intéressées par descendre? Il faut savoir nager, hein, quoi qu'il en soit. Même si les eaux ne sont pas profondes, hein, il faut quand même savoir nager au cas où vous tomberiez à l'eau. Donc, de ne pas paniquer. Tu peux avoir un maillot de bain, un short de bain ou un short, peu importe. Il faut savoir que tu arriveras, ça sera mouillé. Hein. D'accord ? Ils mettent à notre disposition donc un bidon étanche par embarcation. Donc, on met nos affaires de rechange dedans. On met nos bouteilles d'eau, on met si on a envie, si on pense avoir faim en cours de route, etc. On met tout ça dans le bidon étanche. On fait nos 10 km. Arrivé en bas, ils nous remontent en navette.
Donc avec
les
gilets de sauvetage.
Oui, ils nous fournissent gilets de sauvetage. Tout est fourni. Il faut juste qu'on vienne avec casquette, crème solaire, chaussures fermées. Parce que vous tombez à l'eau, vous pouvez tomber sur des cailloux qui font mal, donc chaussures fermées. Voilà. Après, ce que je regardais de leur présentation, c'est vraiment très très rare de tomber à l'eau. Que ce soit les kayaks ou les canoës ne se retournent pas, quoi qu'il en soit. Ils sont fabriqués de telle façon qu'ils sont tellement plats que c'est très dur de se retourner. Ça peut se retourner.
Ça
t'est arrivé. C'est un sport sur l'eau. Hein. Oui, voilà, donc on conclut. Ceux qui sont intéressés, levez la main. Une personne, deux adultes et un enfant. C'est gratuit pour les enfants.
Tu sais, David, je vais te parler d'un sport. Il a un copain. Et on pourrait avoir des intéressants
parler. Mais par contre, il faut quand même qu'on sache.
Je ne sais pas si c'est important.
Sache combien il y a de personnes qui sont intéressées.
Oui, parce qu'on peut voir son PRV.
Oui, voilà.
Parce qu'il dit, si vous m'avez dit,
s'il vous plaît. Donc, à part Laetitia qui s'est prononcée, est-ce que d'autres personnes, donc Ulysses, Angélique, G1, ça fait 3, 4,
Michel
5, bonjour, 6. On part sur une dizaine pour l'instant. Une dizaine, d'accord? Ok. On part sur une dizaine. On voit donc avec Johannes.
Johannes Toer, celui qui nous fait le
réseau.
Donc tu peux régler ça avec lui. Oui, comprenez. Et pour ça, demain, il fixera le deuxième. Merci David. Ça veut dire qu'il y en a ceux qui restent ici. D'accord ? Donc, comme chaque année, on organise des tournois. J'ai vu qu'Éric s'en est filé de volley-ball. On pourrait faire des tournois aussi de volley-ball. Ce sera pour pas rien. Et qu'ils font aussi jamais les raquettes. Donc, tout ça, on peut organiser. Ceux qui ne partent pas. Et aussi pour rester, pas monter, parler. Voilà. En gros, c'est ça. Demain, donc, 8h30 du déjeuner, message à 10h, on n'a pas la cloche, hein. Donc il faut que vous reteniez que à 10h, même si vous faites un peu du sport, vous revenez à 10h ici. Donc le planning est 11h30, donc temps libre, à 12h30, déjeuner. Et à 14h, donc la sortie, pour ceux qui font la sortie kayak, et pour ceux qui restent ici. Voilà. Au moins pour la matinée. On a ça pour la matinée. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres questions? Oui, on a, j'ai pas encore parlé avec David parce que on en reparlera tout à l'heure. C'est question de responsabilité, si on ne sait jamais, quoi que ce soit qui peut arriver.
Non, non, non. Je pense que si un enfant vous y a dit, c'est pas possible.
Il faut que les parents soient. Donc ça se réglait. Un enfant mineur, jamais dans tes rêves. Il faut qu'il soit avec les parents. Voilà, donc c'est le quartier libre des designs. Maintenant, je crois qu'on a également les éléments des jeunes. De...
Je veux voir si vous pouvez être avec ton équipe. Le